Bonjour à tous et bienvenue sur L'Essentiel, le podcast qui vous invite à redécouvrir ce qui est essentiel pour vous et qui vous inspire l'envie de vous réaliser. Je m'appelle Yeba Olaye et j'ai fondé Yeba, une marque de maroquinerie essentielle. Ce podcast, c'est ma façon de continuer mon histoire avec vous, de continuer à vous inspirer et vous insuffler la confiance et l'envie d'être vous-même. À travers chaque interview, nous irons à la rencontre de personnalités inspirantes et singulières. Des femmes du monde, d'ici et d'ailleurs, qui ont osé suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'elles ont posés, des chemins qu'elles se sont frayés et de ces petites choses, routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'elles et surtout d'oser grâce à elles. Finalement, l'essentiel n'est-il pas de... Et si on y répondait aujourd'hui ? Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Dans cet épisode, je reçois Salwa Peterson, une nomade des temps modernes, originaire des vastes terres du nord du Tchad, berceau de l'humanité. Salwa a appris dès le plus jeune âge un nombre extraordinaire de rituels de beauté traditionnels efficaces, comme le tchébé, le secret le mieux gardé des femmes tchadiennes pour préserver leur chevelure à la longueur incroyable. C'est l'efficacité du tchébé, justement, ainsi que d'autres rituels de beauté d'Afrique peaufinés au fil des millénaires qui l'ont inspiré à créer Salwa Peterson, sa collection éponyme de produits cosmétiques primés, naturel, sensoriel et hautement performant qui combine le meilleur de la sagesse ancestrale du Tchad aux technologies de pointe. Diplômée de Harvard et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Salwa a commencé sa carrière dans le domaine du droit, comme juriste à la Banque mondiale, avant de changer de cap pour travailler en développement de produits pour les plus grandes marques de beauté. Au cours de plusieurs années, elle a lancé avec succès un large nombre de produits de beauté devenus meilleures ventes dans leur catégorie. Sa marque éponyme, Salwa Peterson, est le fruit de cette expérience inestimable. C'est surtout une belle histoire entrepreneuriale, faite de résilience et de transmission, partie d'une vision, un rêve d'enfant, qui lui ont donné la force de créer à elle seule un pan d'industrie aux valeurs résolument humaines et authentiques. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Salwa, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast L'Essentiel. Bienvenue à toi.
Bonjour Yeba, merci à toi pour l'invitation. Je suis absolument ravie d'être ici aujourd'hui.
Oui, dis-moi, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter ?
Moi, je suis Salwa Peterson, donc je suis tchadienne. Mes deux parents sont tchadiens. Et moi, j'ai grandi un peu partout, en fait, donc entre l'Arabie Saoudite, la Suisse, le Bénin, l'Égypte, le Gabon, les États-Unis, voilà. Et aujourd'hui, j'habite en Allemagne, donc je suis la fondatrice et la PDG donc l'entreprise qui porte mon nom, donc Salwa Peterson, qui est inspirée par les rituels de beauté millénaires de mon pays, le Tchad, et Made in France, qui sont réimaginés pour tous.
Oh là là, mais j'ai hâte d'acheter tes produits. On ne lit que du positif dessus. Ça semble être des produits qui fonctionnent, mais avec magie, rapidement. Dis-moi, pour mieux comprendre comment tu en es arrivée à lancer ta propre marque de cosmétiques, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, peut-être depuis ta tendre enfance, et ce qui t'a poussé à te lancer dans l'aventure entrepreneuriale?
Voilà, ce qui m'a amené sur la voie entrepreneuriale, c'est que je pense que je savais déjà depuis très jeune, que je voulais un jour construire quelque chose. C'était peut-être pas clair que c'était l'entrepreneuriat, mais comme je disais tout à l'heure, donc moi je n'ai pas grandi au Tchad, mais d'une façon j'ai aussi grandi au Tchad, puisque j'y passais mes vacances, j'y passais mes étés. Et une des choses qui m'avait fascinée très très jeune, ce sont les rituels de beauté des femmes tchadiennes, notamment le chébé qui permet d'avoir ses cheveux à la longueur extraordinaire. Et donc, il y a déjà 20 ans, quand j'avais fini le lycée tôt, j'avais 15 ans, j'ai lancé en fait ma première boîte à boise de chébé. Donc en fait, c'est ma deuxième entreprise qui fait du chébé. Ce n'est pas la première. Et donc du coup, que j'avais... a arrêté pour continuer mes études. Donc, je suis avocate de formation. Et okay. Donc, après une première carrière dans le monde juridique, puis j'ai passé 5 ans. En fait, j'ai réalisé ma passion qui est plus grande et j'ai adoré être juriste. qui est en fait la beauté. Et donc, du coup, j'avais rejoint le groupe L'Oréal. J'ai passé 4 ans extraordinaires, vraiment, vraiment incroyables. Et j'ai eu cette job en 4 ans, donc c'était particulièrement intense. Oui. Et donc, je suis partie il y a 5 ans. Pour me lancer, donc il y a eu beaucoup d'influence, donc il y a eu l'influence évidemment du Tchad, puisque ma mère, même si je n'ai pas grandi au Tchad, elle continuait d'utiliser en fait des produits tchadiens, que ce soit le chébé, les encens, les parfums, parce qu'au Tchad on a en fait une culture millénaire autour de ces rituels de beauté. Ce qui est assez extraordinaire et même très extraordinaire, c'est que si on va dans le nord du Tchad, quand on regarde les peintures rupestres de l'Enedi, que d'ailleurs avec une entreprise nous aidons à protéger, puisqu'on reverse 2% des ventes à Africa Parks pour protéger ce lieu juste incroyable qui en fait fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, sur ces peintures rupestres qui ont 7000 ans, on retrouve les mêmes gestes de beauté qui ont été préservés au cours des générations au Tchad.
J'en ai la chair de poule. Les personnes qui nous écoutent ne te voient pas, mais moi je te vois, tu es d'une beauté incroyable et tes cheveux d'une longueur inouïe.
90 centimètres.
C'est dingue. Et surtout pour, je ne vais pas stigmatiser, mais pour une femme noire, ou en tout cas d'origine africaine, arriver à cette longueur-là de cheveux n'est pas... c'est un combat de toute une vie. Et quand je vois les tiens qui ont l'air en pleine santé, qui ont du volume et qui justement font rêver, je me dis comment de juriste, même si on passe chez L'Oréal, tu étais toujours juriste ou tu as changé de métier?
Je n'ai pas du tout touché au droit et je n'avais aucune envie de toucher au droit.
Ah ok, d'accord.
J'ai fait du marketing,
ah, okay, d'accord.
Du commerce, je fais du management.
D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que tu as
pris?
Ah d'accord, voilà, parce que ça, on est passé assez rapidement dessus, mais qu'est-ce que tu as appris chez L'Oréal et comment est-ce que tu t'es dit, ok, moi je peux faire mieux et surtout j'ai envie d'amener dans les mains des femmes ce trésor que je connais depuis mon enfance?
Ouais. Donc il y a plusieurs questions, donc je vais essayer de répondre à toutes les questions. La première, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des cheveux à la texture afro qui sont longs? En fait, le cheveu afro pousse, il pousse ben, comme tous les cheveux du monde, il pousse tout le temps. Le problème du cheveu afro, ce n'est pas un problème, c'est juste sa nature. En fait, c'est que c'est le cheveu le plus fragile au monde. En fait, comme c'est un cheveu qui boucle, qui frise, à chaque point de frisure, il y a un point de cassure. Parce que le sébum qui part donc de la racine des cheveux jusqu'aux pointes n'arrive pas, entre griffes, à voyager jusqu'aux pointes. Et en fait, du coup, le cheveu est sec, il est moins nourri et donc a tendance à se casser. Et sa texture ne l'aide pas. Et en fait, ce que les Tchadiennes ont craqué depuis des millénaires, c'est le cas de dire, c'est qu'elles ont découvert qu'en faisant des cataplasmes à la base donc du croton verticillus, que nous appelons au Tchad le chébé, ils ont des petites graines, on arrive en fait à protéger le cheveu à ce qu'il ne se casse pas. C'est pour ça, par exemple, que ma crème capillaire, la destination cheveux, sont des cheveux en quête d'une belle longueur. Donc, si vous voulez garder cette longueur, en fait, il faut mettre du chébé dessus. Et donc, c'est scientifiquement prouvé, mais tu l'as dit, en fait, les gens, les retours qu'ils font sont toujours très positifs sur les résultats qu'ils ont eus. Donc, surtout sur la durée, on a quelques avant-après absolument incroyables sur le site de vrais clients. Oui. Qui utilise le produit comme une fille qui a doublé son afro en 8 semaines et une autre personne qui en 1 an a les cheveux 3 fois plus longs. Ils étaient déjà assez longs, ces cheveux. Donc voilà. Donc ça, c'est la première question. Et donc la deuxième question, c'est par rapport à L'Oréal. Donc chez L'Oréal, en général, moi j'ai presque tout fait puisque j'ai commencé comme vendeuse chez Sephora. Donc vraiment sur la vente et puis d'être en magasin, donc qui est très important puisque à la fin de la journée, quand on a des produits en magasin en tout cas, ce sont les vendeurs qui les vendent. Ce n'est pas la marque en elle-même. Donc, de commencer là. Et puis ensuite, j'ai eu des postes classiques de chef de produit, chef de projet, donc opérationnel et plutôt développement produit qui permet vraiment d'avoir la vision 360.
D'accord.
Du produit, du plus de la création. Et ensuite, j'ai travaillé sur le marché Moyen-Orient. Donc, je suis aussi arabophone. Et donc, du coup, j'avais notamment fait le lancement des produits stars de Elsev à Dubaï et Liban. Et en fait, c'était aussi très intéressant puisque ça permettait de voir comment adapter son message, surtout une marque très forte, très iconique comme L'Oréal Paris, qui est quand même la marque de beauté qui a la plus forte équité au monde. qui est déjà très très connue, mais comment est-ce qu'on l'adapte avec un message local sans la dénaturer? Ça, c'est un exercice extrêmement intéressant à faire et surtout de réussir à le faire. Et aussi de venir sur des marchés où, en France évidemment, où on était les leaders, mais de venir sur un marché où tu es challenger. Et ça, c'est très, très intéressant aussi. Donc, ça, c'était de très bonnes leçons à prendre. Et sur mon dernier poste, j'étais en charge du PNL. Donc, ça veut dire que tu vois vraiment toute la vision du business. Donc, comment est-ce que toutes ces parties-là parce que c'est comme un puzzle finalement. Au début, tu fais tel poste, tel autre poste, et finalement, comment est-ce que tu as un business et que tu prends de la hauteur dessus pour être sûr que tout marche. Donc voilà, donc ça, c'est évidemment très utile. Moi, en plus de mes études de droit, j'ai aussi fait des études de commerce, mais il y a ce qu'on apprend à l'école et puis il y a la vraie, ce qu'on fait. Et aussi, chez L'Oréal, j'ai eu la chance d'avoir des sponsors, des mentors incroyables qui m'ont énormément transmis. Et donc voilà. Et moi, en fait, du coup, quand j'étais chez L'Oréal, évidemment, donc moi, j'ai cette passion pour la beauté, pour le monde de la beauté, les rituels de beauté, les produits de beauté. Et j'avais vu ce white space qui est toujours là, qui en fait est le fait de se dire qu'il y a tellement d'ingrédients qui viennent d'Afrique. Surtout le beurre de karité, c'est un peu le poster child, on le voit partout. Mais l'Afrique n'est pas créditée pour cela. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que le beurre de karité vient d'un arbre qui ne pousse qu'en Afrique, en fait. Donc, par exemple. Et
Est-ce que les gens ne le savent pas?
que ça vient d'un arbre, mais nous, on le sait. Mais il y a
Ah,
beaucoup de
mais
gens qui pensent que c'est un beurre et que c'est en beurre, quoi. Ils ne savent pas d'où ça vient. Surtout les Américains, ils n'ont aucune idée d'où vient le beurre de karité. Ils savent pas que c'est africain, ils savent pas que ça vient d'un arbre, ils savent pas que c'est aussi un processus. Donc moi, j'utilise le beurre de karité dans mes formules, donc que ce soit ma crème capillaire, mais aussi cette bougie que nous avions fait en édition limitée, dont la cire est à base de beurre de karité bio et équitable en fait. C'était un challenge qu'on s'était mis et on avait fait cette cire végétale à base de beurre de karité d'Afrique. Donc voilà, donc pour revenir, donc moi je voyais en fait ce white space où je me disais, mais en fait il y a quelque chose à faire sur des ingrédients d'Afrique. Évidemment, pour moi, l'ingrédient qui était iconique de mon pays, le chébé, qui n'était pas du tout connu en fait en dehors du Tchad, et encore très peu. Très peu de gens en avaient entendu parler. Et pour être honnête, c'était aussi une surprise pour moi parce que quand je suis partie du groupe L'Oréal, il y a 5 ans, très exactement, je me suis dit, je vais juste appeler un laboratoire, les briefer sur ce dont j'ai besoin, sauf que personne n'avait entendu parler du coton Vaticinus.
C'est pas
Et
vrai.
en fait, je me suis rendu compte au bout du 10e laboratoire, 12e, je ne sais plus. En plus, j'habitais en Nouvelle-Zélande pour me faciliter la vie.
Après, tu vas nous raconter quels sont tous les pays que tu as fait, parce que tu vas voir à travers l'interview, on va entendre plein de noms de pays et tu es un peu béninoise aussi, comme moi.
Un peu bien aussi, puisque j'ai passé une partie de mon enfance,
Bon,
exactement.
mais donc tu te rends compte que c'est une totale ignorance sur ce
Une totale
produit-là.
ignorance sur cet ingrédient-là, même si il y avait quelques poudres de chébé plus ou moins authentiques qui étaient vendues en ligne ou sur les marchés. Et en fait, il faut aussi savoir qu'en Europe, les cosmétiques font partie du code de santé publique, heureusement d'ailleurs. Donc, ça veut dire que pour ceux qui respectent la loi, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur le marché, on ne peut pas mélanger des choses dans sa cuisine et les mettre sur le marché comme ça. En fait, c'est contre la loi, c'est en fait illégal, même s'il y a des marques qui le font. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on crée une filière cosmétique? Moi, il y a 5 ans, je n'avais absolument aucune idée. Je l'ai fait. Ça m'a pris 4 ans de R&D. Donc, ouais, pour construire de A à Z une filière.
C'est formidable parce que toi, enfin, juste pour récapituler, tu quittes L'Oréal. Est-ce que tu avais l'idée de lancer ta marque telle qu'elle existe aujourd'hui, ou tu avais plutôt l'idée de d'aller chercher ces ingrédients qui peuvent vraiment faire la différence dans la composition des produits? Quelle était ta vision quand tu as quitté L'Oréal? Vers quoi est-ce que tu cheminais? Qu'est-ce qui t'animait en fait?
Moi, en fait, je vais aller d'abord, il y a 20 ans, quand je finissais le lycée, j'avais déjà ce premier business que j'avais créé, mais qui n'a pas fait très long feu, mais qui était génial en tant que business, puisqu'il était rentable en une semaine. C'est vraiment un truc de voilà. Et la deuxième chose, c'était il y a un peu plus de 10 ans, quand j'étais étudiante aux États-Unis à Harvard, j'avais écrit le premier business plan qui, en fait, était un peu le blueprint de ce qui est de ma marque. C'était le plus proche. Évidemment, une fois que je suis partie de chez L'Oréal, j'ai retravaillé un autre business plan, j'ai retravaillé une autre. Voilà. Mais il y a ce qu'on fait, ce qu'on imagine que ça va être. et ce qui devient. Mais pour moi, il y avait certaines choses qui étaient très importantes. C'était d'avoir des ingrédients originels d'Afrique. D'ailleurs, les rituels originels d'Afrique, c'est la tagline de ma marque. Et d'avoir aussi des ingrédients qui soient authentiques, qui soient bio et qui soient surtout sourcés dans le respect de l'environnement des gens, en fait. Par exemple, les femmes avec lesquelles je travaille au Tchad, c'est une des dimensions qui me rend le plus fière dans mon entreprise, c'est de payer 3 fois le salaire minimum local. Donc, en fait, ce sont des femmes qui arrivent à vivre décemment, en fait, donc de ce qui est payé. Elles travaillent dans de bonnes conditions, que ce soit sanitaire ou voilà. Donc, oui. Pour moi, ça, c'était très important de les sourcer, pas juste d'aller et puis de rasier, voilà, de se servir sans penser ni à la planète, ni aux gens, voilà. Et c'était très important pour moi aussi que les femmes tchadiennes en bénéficient parce que c'est leur trésor. Ce n'est pas que le mien, c'est notre trésor que depuis des milliers d'années. Et donc, comment est-ce que mon entreprise leur donne à eux? Et tout à l'heure, on parlait du beurre de karité que j'utilise aussi dans la formulation de ma crème capillaire et d'éviter qu'il arrive au chébé ce qui est arrivé au beurre de karité, donc qui aujourd'hui est surexploité. Donc beaucoup d'industriels ont remplacé l'huile minérale par le beurre de karité, qui est une source aujourd'hui finite, mais qu'on continue d'utiliser comme si elle était infinie. Donc voilà, d'éviter cette chose-là. Donc, moi, j'ai tout bien fait donc avec le protocole Nagoya. Le protocole Nagoya, qu'est-ce que c'est ? C'est un protocole qui s'assure que les bénéfices sont aussi redistribués avec la population locale. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous avons mis en place. La traçabilité, donc énormément de choses. Donc, ce n'est pas le sujet du podcast, sinon on va passer.
Non, voilà. Mais ce qui est fascinant, c'est que tu as créé tout un pan d'industrie, en fait.
Qui peut aussi scale, en fait.
Oui, tu as vraiment travaillé de fond en comble et ce projet vit en toi depuis que tu es enfant. Ça semble être une évidence. Tu as pris le temps, mais tu as construit des bases tellement solides qu'on voit déjà aujourd'hui à quel point tu vas aller loin. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est l'impact positif. C'est un projet tellement vertueux, aussi bien au niveau des valeurs qu'il transmet, de l'héritage qu'il partage, et surtout de l'impact positif humain qu'il a aussi bien sur celles qui travaillent avec toi que celles qui utilisent tes produits et qui sont désespérées. Et qui ont du mal à se retrouver dans l'offre faramineuse qui existe aujourd'hui. Donc je trouve que ce que tu fais est admirable. Et tout ça sur tes épaules à toi, comment est-ce que concrètement tu as mis en place, une fois que le produit était là, une fois que tu avais tous tes partenaires et fournisseurs, comment est-ce que tu as amené le produit sur le marché ? Je pose la question au regard de toutes celles qui voudraient faire un peu comme toi, lancer leur propre marque sur base de produits originels et qui ne savent pas trop comment arriver sur un marché aussi concurrentiel.
Oui, le marché de la cosmétique est très, 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 très concurrentiel, extrêmement concurrentiel. Il y a évidemment tous les grands groupes qui sont là, mais il y a aussi beaucoup de marques indépendantes et de plus en plus. Et il n'a jamais été aussi facile, en fait, de créer une marque aujourd'hui. Il suffit juste d'avoir un site internet, une page Insta et voilà, et un produit. Donc, en fait, comment est-ce que moi j'ai fait ? Donc, pour moi, c'était évident de venir et puis de faire connaître le produit, parce que ce n'est pas parce que vous avez un produit que les gens viendront l'acheter. Il faut aussi en faire parler. Et donc, c'est pour ça que moi, une des premières choses que j'ai faites, c'était d'aller voir la presse. Et la façon dont la presse a accueilli la marque et le produit est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Parce que l'accueil a été particulièrement chaleureux, surtout si on se rend compte qu'on était en pleine pandémie quand j'ai lancé. J'ai lancé en 2020, c'était en pleine pandémie, on pouvait même pas aller aux États-Unis, sauf si on est américain, quand on habite en Europe comme moi. Et pourtant, c'était le gros lancement que j'avais prévu, c'était aux États-Unis, on l'avait fait sur Zoom, moi j'avais envie de pleurer. Voilà, on avait prévu un événement, mais rien ne s'est passé. On a aussi eu le soutien de beaucoup d'influenceurs, donc en particulier une que je voudrais saluer, c'est Fatou Ndiaye, Black Beauty Pack, qui a soutenu la marque dès le début, et aussi l'ancienne Miss Guadeloupe, Ophélie Mézineau. Donc il y a eu tellement de ces femmes qui ont porté la marque très vite, et aussi la modèle Anna Lumo. Donc c'est aussi grâce à ces femmes-là. Et la presse aussi, donc je parlais, on a eu très vite de très beaux articles dans le Elle en France, qui a fait un article dédié. Voici qui a carrément lancé la marque en France en écrivant un article qui a été repris par MSN, qui est devenu viral. Et aussi le Marie-Claire américain, qui nous a donné une full page dans le print, qui a été repartagé par Yahoo, qui a quand même une audience de 2 milliards de personnes. Et en plein Covid, où les gens ne pouvaient pas voyager avec toutes ces photos du Tchad. Et surtout, le dernier, c'est le Vogue américain, qui a allé plus loin que tout le monde, puisqu'ils se sont rendus au Tchad avec moi, sur les traces de tout ce que j'ai manuscrit sur les 4 années, pour en faire un article juste incroyable, en mettant en avant ces femmes du Tchad, leur tradition, leur histoire personnelle. Et c'est un article qui, à chaque fois que je lis, me fait encore pleurer. Donc, on a travaillé dessus pendant 2 ans et je voudrais saluer l'équipe du Vogue américain et du Vogue global. J'ai les larmes aux yeux quand j'y pense, qui ont en fait vraiment relancé quelque part la marque et qui ont parlé de ce rituel millénaire, qui ont lui donnant les lettres de noblesse, en fait. Et puis de la beauté d'Afrique, en fait, c'est. Et d'autant qu'ils n'ont pas juste écrit l'article, ils l'ont mis sur la page de Vogue.com, en front page pendant plus d'une semaine, et repartagé sur tous les réseaux sociaux. C'était assez incroyable. Mais c'était complètement incroyable. Moi, je réalise toujours pas, ça fait plusieurs mois, mais c'est le British Vogue qui l'a repris, et aussi dans toutes les newsletters. Et évidemment, en termes de business, le business a complètement explosé. Et donc voilà.
Mais tu le mérites tellement, et j'ai envie de dire, tu nous dis, c'est la presse au début, mais je pense que c'est avant tout, c'est l'histoire. Hein. Et ton histoire est plus qu'authentique. Le projet que tu mènes, il est là depuis toujours, et ce que tu dis, ce n'est pas fabriqué comme beaucoup font du marketing aujourd'hui. On le ressent, on le vit, tes clientes en parlent. Donc je pense que la leçon numéro un, c'est vraiment l'authenticité. Et c'est de...
L'authenticité, oui. C'est l'authenticité.
En tout cas, c'est...
Par exemple, moi, ça m'est arrivé, j'avais une fois une interview au chat, et en parlant des femmes avec lesquelles je travaille, j'ai commencé à pleurer parce que, même là, je me rappelle, ça me rend très émotionnelle. Et je pense que c'est ça, en fait. On ne peut pas raconter des histoires. Moi, je suis marketeuse, c'est ma formation. J'ai fait des études de marketing, en fin de commerce avec une minor en marketing, et j'ai fait du marketing pendant des années chez L'Oréal. Mais à un moment donné, on ne peut pas inventer de l'authenticité.
Donc, c'est clair.
Les gens le sentent. Et nous sommes dans un monde qui est tellement fake que quelque part, les gens recherchent en fait cette authenticité. Les gens ont besoin, on en a tous besoin aussi. De se dire que c'est comme quand je vois certaines marques qui disent on reverse 1% de nos profits à telle entreprise. Et quand on connaît les startups, on sait très bien qu'il est extrêmement rare, sinon presque impossible, d'être profitable au début et surtout les premières années. Et donc, du coup, à quel moment est-ce que vous renversez vos profits? Parfois, c'est jamais, parce que parfois, il faut plusieurs années, ou parfois, l'entreprise ferme avant qu'on n'en rejoigne jamais la profitabilité. Et moi, je suis très fière de dire que même avant que le produit ne soit sur le marché, ces femmes étaient payées 3 fois le salaire local, et pourtant, j'investissais, je n'avais aucun revenu. Et depuis le tout premier tube vendu, 2% ont été reversés à African Box, alors qu'on perdait encore de l'argent. Donc, voilà.
Bravo. Tu sais, moi, cet aspect-là, ça me touche particulièrement. Et quand j'ai relancé ma marque, il me tenait à cœur d'avoir un impact positif. Et je ne pouvais pas le faire en réalisant les produits sur place et en mettant en place tout cet écosystème que tu as mis en place. Donc, ce que je me suis dit, c'est si je veux aider les femmes à se réaliser, je dois aider les jeunes filles chez moi au Bénin qui ont du mal, qui ne vont pas à l'école ou qui ont besoin de quelqu'un pour les aider à... ne serait-ce à avoir l'inscription. Donc, pour chaque... Et je n'en fais pas la pub, parce que voilà, mais chaque sac qu'on achète chez nous, on essaye de permettre à une fille d'aller à l'école pendant 1 an. Donc, on reverse une partie des fonds.
Non, mais il faut vraiment que tu le dises, si je peux me permettre. Parce que pour les gens, c'est important. Moi, le nombre de messages que je reçois de personnes qui me disent... moi, j'ai acheté vos produits. Évidemment, j'ai lu les avis, j'ai vu que voilà, mais j'ai préféré acheter les vôtres parce que je suis aussi très heureuse de pouvoir contribuer Donc, du coup, à tout ce que vous faites. Et donc, voilà.
Oui.
C'est important pour les gens. Même moi, personnellement, il y a des marques que je choisis de soutenir, même si moi, je ne vais pas utiliser ces produits, mais pour les offrir.
Oui.
Parce que justement, il y a une cause voilà, qu'elles soutiennent et qui me tient à cœur, ou que je sais que la personne à qui j'offrirai le produit est importante pour cette personne.
Oui.
Et c'est une cause noble. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas en parler.
Oui,
Oui,
c'est
c'est
vrai,
vrai.
c'est vrai.
C'est
J'en
vrai. J'en
parle,
parle,
mais
mais pas.
J'en
J'en
fais
fais
pas
pas
beaucoup
beaucoup
de
de
bruit,
bruit,
mais
mais
tu
tu
as
as
raison,
raison,
il
faudrait
faudrait plus
plus
le
le
mettre
mettre
en
en
avant.
avant.
Mais
Mais c'est une
dis-moi.
histoire authentique, c'est pas
En
un
plus,
cliché, tu as
oui,
inventé,
c'est,
tu as
non,
inventé,
c'est une histoire
tu as inventé
authentique et
et
j'ai
j'ai même
même été
été
au
au Bénin
Bénin faire
faire
moi-même
moi-même
les
les
sacs
sacs
de
de
fourniture.
fourniture.
J'en
J'en
ai
ai
rencontré
rencontré
quelques-unes
quelques-unes
qui
qui
allaient
allaient
commencer
commencer
la
la
rentrée
rentrée
de
de
septembre,
septembre,
donc
donc
c'est ça
ça
apporte un
apporte un
sentiment,
sentiment,
mais
mais
qui
qui
va
va
au-delà
au-delà
de
de
tout
qui
en
va au-delà.
fait.
Ouais,
Oui.
c'est ça.
Et,
Et,
mais
mais
tu
tu
sais,
sais,
quand
quand
on
on
entend
entend
ton
ton
histoire,
histoire,
on
on
a
a
l'impression
l'impression
que
que
ça a
c'est
été facile.
facile.
Mais
Mais
est-ce
est-ce
que
que
tu
tu
pourrais
pourrais
partager
partager
quelques
quelques
anecdotes
anecdotes
difficiles,
difficiles,
des
des
moments
moments
qui
qui
ont
ont
été
été
peut-être
peut-être
un
un
peu
peu
mémorables où
mémorables où
tu
tu
aurais
aurais
pu
pu
abandonner
abandonner
et
et
malgré
malgré
tout,
tout,
tu
tu
as
as continué?
continué?
Ouais. Donc le premier qui a été le plus, enfin, il y en a eu beaucoup qui étaient très difficiles. L'un d'eux a d'abord été d'arriver à créer cette filière. Parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que le coton gratissimus pousse au Tchad, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique. Et donc, moi, j'ai travaillé avec des botanistes, des professeurs d'université, notamment au Bénin d'ailleurs, pour donc analyser cette plante, en faire la bibliographie, puisqu'il n'y avait aucune bibliographie officielle qui existait. Donc, de le faire, j'avais 6 étudiants sur le terrain pendant 1 an. Donc, c'était un vrai travail de fond scientifique. Et ce que nous avons découvert qui est très intéressant, c'est que le chébé qui pousse au Tchad, donc sont ces petites graines-là, il y a aussi le chébé qui pousse ailleurs en Afrique. Donc là, on ne le voit pas à l'écran, mais est beaucoup plus grosse. Et quand on a fait les analyses en laboratoire, ce n'est pas du tout la même composition phytochimique. Et en termes d'ADN, c'est très, très différent. Et en fait, en termes de propriété, le chébé le plus puissant du monde, en fait, ou le seul, puisque chébé, c'est la langue maternelle, c'est celui qui pousse dans une région très spécifique du Tchad. Donc, il y a aussi ça à savoir, ce n'est pas parce qu'on voit Croton gratissimus que c'est toujours pareil. C'est une variété différente. Donc, il y a eu ça. Donc, déjà, de s'en rendre compte, ça a demandé 18 mois de R&D, juste cette partie-là. Donc, ça, c'était quand même assez
Long.
compliqué à faire, long, très cher, compliqué à faire. Et la deuxième chose qui était compliquée, c'est qu'une fois qu'on a déterminé que c'était celui-là qu'il faut aller chercher, dans cette région spécifique du Tchad, la question c'était comment est-ce qu'on arrive à la mettre dans des soins modernes, c'est-à-dire d'en faire un extrait. Et donc ce que nous on a fait, c'est un extrait donc, qui est là, que toi tu peux voir du coup, qui en
Oui.
fait est un extrait qui va chercher toutes les molécules actives. Il y a des centaines de molécules dans ces petites graines qui sont très petites de chébé. Toutes les molécules actives de ces graines-là à froid, c'est-à-dire qu'on préserve toutes ces molécules actives et donc d'en faire cet extrait qui du coup a été ajouté aux premiers soins modernes dans le respect de la régulation donc de chébé du Tchad qui est fait donc dans mon laboratoire à Paris. Et donc ça a été très difficile aussi parce que moi j'avais un cahier des charges particulièrement ambitieux. Pourquoi faire simple quand on peut faire
Et
compliqué?
surtout quand on vient de, oui, quand on a vu comment les choses se passent chez L'Oréal, qui est quand même une armée et qu'il faut le faire par soi-même, on ne se
Il
rend
faut le
pas
faire par soi-même, exactement.
une
Il y aurait
armée.
une équipe de 50 personnes qui aurait fait ça, pas moi toute
Oui.
seule. Et avec des budgets 100 fois plus importants, bon, ou 1000 fois, j'en sais rien. Et donc, du coup, aussi, donc, de trouver d'identifier, ça a été assez long, d'identifier les bonnes personnes qui peuvent me faire au prix juste un extrait qui soit 100% naturel
Oui.
et bio et éco-certes. Et donc, on ne peut pas aller plus loin dans le cahier des
Non,
charges. Et on a
honnêtement,
réussi à
non.
le faire. On a réussi à le
Bravo.
faire. tout en gardant toutes tes molécules actives. Ouais. Donc voilà. Mmh. Et donc ça, c'est du, ce n'est pas du CBD, c'est du super, super, super CBD du Tchad en fait. Voilà.
Ah non, mais là, je pense que ceux qui nous écoutent tout de suite après cet épisode vont aller sur ton site et et acheter tes produits. Est-ce qu'ils s'adressent que aux femmes afro ou tout le monde peut les utiliser? Quelle est la texture de cheveux qui bénéficiera le plus de ces bienfaits?
En fait, ces produits ont été créés d'abord et avant tout pour les cheveux afro, qui, comme on disait tout à l'heure, sont les cheveux les plus fragiles au monde.
D'accord.
Et du coup, ce qui s'est passé, qui était en fait assez inattendu pour moi, puisque moi, quand j'ai commencé, je parlais d'abord aux textures afro. Même les influenceuses que j'ai contactées étaient tous des influenceuses afro-descendantes avec des cheveux bouclés, frisés, afro. Tout le monde s'en est emparé. Donc aujourd'hui, en fait, on a des clients dans près de 50 pays et des femmes de toute texture de cheveux utilisent ces produits, en fait. Et même si, évidemment, le cœur de ma cible, puisque c'est à elle que je parle en priorité, est afro-descendante, mais c'est donc tout le monde peut en bénéficier. Donc tous les cheveux qui sont fragilisés, qui sont en quête d'une belle longueur, qui sont en quête de force, qui sont en quête de brillance, enfin juste d'un cheveu plus sain, peuvent en bénéficier. Okay. Sachant que pendant qu'on faisait les tests d'efficacité, qui ont été aussi longs, mais sachant que la formule a été reformulée 37 fois.
37 fois ! Quand on parlait de difficultés, tu as omis de dire que...
C'est pour ça que je disais qu'il y en a eu beaucoup, ouais. Mais c'est vrai, en revenant sur les difficultés, donc il y a eu déjà ça, donc d'arriver à une formule qui soit et naturelle, et efficace, et sensorielle. Parce qu'après, quand on est sur du bio ou du naturel, il y a toutes ces formules qui savonnent ou qui ne sont pas efficaces. Mmh. Et moi, je ne voulais pas choisir, en fait. Moi, je ne voulais pas choisir entre l'efficacité ou la naturalité. Je ne voulais pas choisir entre la sensorialité et la naturalité, parce que souvent, c'est un choix. Et donc, voilà.
Tu es restée exigeante, pas de compromis. Tu allais jusqu'au bout.
Aucun compromis. Donc, pour moi, en plus, je venais monoproduit. Donc, je voulais vraiment un produit... je ne recherchais pas la perfection parce que la perfection n'existe pas, mais je cherchais en fait ce qu'on pouvait faire de mieux. Donc, okay. Voilà, ce qu'on pouvait faire le mieux possible et de venir donc avec ce produit. Une des deux difficultés que je n'ai pas mentionnées, mais qui pour moi étaient les 3 mois les plus longs de ma vie, je pense, était quand au début de l'été 19. Ouais, et début d'été 2019.
Avant Covid ou après Covid? Excuse-moi, avant Covid.
Avant Covid.
2019.
Voilà, quand on pensait qu'on allait pouvoir finalement lancer prochainement, il y a eu quelqu'un au niveau de l'Union européenne, parce qu'il a fallu en plus, que je n'ai pas dit, enregistrer l'ingrédient. Donc le faire accepter sous son nom latin, ça a été la croix et la bannière, bien en Europe qu'aux États-Unis. C'était très long. Toutes les paperasses. Donc aujourd'hui, on peut l'utiliser dans les listes INCI. Les listes INCI, c'est ce qu'on voit sur les produits cosmétiques, où on vous donne tous les noms latins, scientifiques des ingrédients, parce que le CBD n'existait pas dans les listes INCI. Donc en fait, moi, je voulais enregistrer comme nouvel ingrédient cosmétique. Donc il a fallu faire un dossier énorme avec des textes, toutes sortes de tests, y compris de toxicologie, de discrimination ADN. Enfin, je passe les détails.
Quelle résilience, mais vraiment, quelle résilience.
Quand on a déposé le dossier, tout marchait sur des roulettes jusqu'au moment où un bureaucrate de l'Union européenne a voulu tout arrêter en disant en fait il faudrait refaire tel test qu'on avait déjà fait et qui avait en plus coûté un bras et qui a demandé à ce qu'on le refasse et qui est parti en vacances. C'était en juillet. C'est pour ça que je dis que c'était les 3 mois les plus longs de ma vie. Et donc, vu tous les investissements en temps et en argent, et enfin, 3 ans à temps plein sur ce projet, donc, 2 ans à l'époque, donc, voilà, et qui est parti. Et pendant ces 3 ans, et en fait, on ne savait pas ce qui se passait. Et en fait, il revient en octobre. Et on a dû donc refaire ces nouveaux tests qui reviennent et disent finalement, on n'a plus besoin de ces tests puisque tout était là. Et en fait, votre dossier passe. Il nous a fait perdre une demi-année. Puisqu'en fait, une fois qu'il est revenu, donc on avait tout mis en stand-by. Mais tout, que ce soit sur le développement des packages. Mais surtout parce que si on n'avait pas le go, moi, je n'avais pas envie d'être dans la légalité. Donc, on n'allait pas lancer un produit qui ne respectait pas jusqu'au bout la régulation. Donc, voilà. Et on avait dû tout arrêter. Donc, du coup, on a perdu ces 3 mois. Mais si on compte le temps des autres choses qui n'ont pas été faites, on a perdu...
Une demi-année. 6 à 8 mois. Donc, au final, si vous arrivez avec un beau packaging, une histoire bien ficelée, un site web finalisé, comment étaient les tout débuts? Parce que là, ça nous amène en plein Covid, en fait.
Ça nous amène en plein Covid. Les tout débuts étaient, bittersweet, je cherchais le mot. Donc, c'était pour un lancement Covid, c'était particulièrement réussi, puisqu'on a eu très vite le soutien de la presse, des influenceurs, etc. Mais il y avait aussi cette frustration de ne pas avoir pu faire quelque chose en personne, qui était là. Et puis, il y avait aussi les gens étaient distraits par les confinements, par tout ce qui se passait.
Oui.
Mais globalement, on a eu un lancement très réussi. Et voilà. Et moi, j'aurais remercié les premières clientes, les premiers qui ont soutenu la marque et qui continuent à soutenir. Donc, il y a toujours le bouche à oreille qui fonctionne très bien. Oui. Et donc, voilà.
Oh là là. Mais en tout cas, c'est bien parti pour devenir une marque internationale qu'on va, j'espère, voir partout, qui sera distribuée partout dans le monde. Bon, je m'avance un peu. Je vais quand même te poser la question. Où est-ce que tu veux amener la marque et comment tu la visualises dans 2-3 ans? Où tu la visualises et quel est ton objectif?
Moi, en fait, je pense que ce qui m'a permis de mettre les choses en perspective, je vais raconter une histoire. Et justement, avant de partir au Tchad avec vous, je suis passée voir l'ambassade du Tchad à Berlin. Et la personne, en fait, qui était donc le jardinier de l'ambassade, quand j'ai dit je venais, que j'avais rendez-vous avec l'ambassadeur, il m'a fait entrer. Et ensuite, quand les gens ont vu mon nom, il est venu me voir et il m'a dit: je voudrais vous dire merci parce que vous savez, j'ai une sœur qui, grâce à vous, arrive à soutenir sa famille avec le cheveu. Et en plus, c'était un jour où je me sentais particulièrement pas bien. C'était un jour gris d'hiver à Berlin. Et c'est ce genre de moment où on se dit, en fait, c'est là où je me suis dit, il y a des moments comme ça où on se dit ce que je suis en train de construire. Il faut que je trouve une façon, donc, parce que quand on est entrepreneur, c'est les montagnes russes, que cela me survive, parce que ce n'est plus juste moi, ça va au-delà de moi. Donc ça, c'était une première chose. Et puis aussi, quand j'étais au Tchad, quand je voyais en fait l'impact qu'on pouvait avoir, et de se dire qu'un magazine comme le Vogue américain, qui est quand même le plus prestigieux des magazines de mode, de beauté,
au monde.
Au monde, voilà. Le plus... Et aussi, il faut dire les choses comme elles sont, le plus snob. Donc, qui viennent au Tchad dans la brousse avec moi et me suivent, me fassent confiance dans ces montagnes de mon enfance, de me dire, mais en fait, cela met le Tchad sur la carte. Et en fait, moi, je voudrais qu'il y ait quelque chose qui reste que, d'une façon ou d'une autre, que les générations futures aussi puissent en bénéficier. La même chose avec African Parks. Donc à qui je reverse ces 2%, et donc de se dire qu'il y a maintenant des dizaines de petites filles qui vont au Tchad à l'école. Et lorsque nous avions fait l'enquête en mars 2020, juste avant la pandémie, dans la région de Bénédi, donc où on soutient African Parks, 100% des petites filles n'ont jamais mis pied à l'école. Et donc de se dire qu'aujourd'hui qu'il y a des filles qui vont à l'école, donc grâce au soutien de mes clients et clientes, de se dire que c'est quand même assez extraordinaire et que c'est, je cherche le mot en français, mais que c'est une legacy que moi je voudrais qu'elle me survive.
Oui.
Que quel que soit ce qu'on fait, qu'on vende des crèmes chez les autres, que ça va bien au-delà. Parce que quand j'étais justement conseillère juridique à la Banque mondiale, qui était un de mes métiers quand j'étais encore avocate. J'étais conseillère juridique à la Banque
mondiale. Ok, conseillère juridique. Waouh.
Voilà. Et à cette époque-là, j'étais tombée sur des rapports qui m'avaient beaucoup à la fois touchée, fascinée, fâchée, parce qu'il disait qu'en fait, si on met deux générations de petites filles à l'école, on sort un pays de la pauvreté.
Oui.
Et en fait, je me rappelle, j'avais eu des discussions très longues avec la VP à l'époque et la MD aussi, en leur disant, mais j'avais 24 ans, donc j'avais aussi cette fraîcheur, cette naïveté de quand on est très jeune, en disant, mais en fait, c'est la... c'est facile à faire. Il faut mettre les petites filles à l'école, au lieu de construire des routes, au lieu de construire des... Et bon, après, il y a toute la politique, c'est pas aussi simple que ça. Et
Non.
aujourd'hui, moi, ça me rend extrêmement fière de me dire qu'en fait, on peut mettre ces petites filles à l'école, leur assurer un avenir. Et moi, au moment de ma graduation à Harvard, on m'a dit que j'étais la première de mon pays. Pas juste première femme, mais première tchadienne, de nationalité tchadienne, à avoir fait ses études à Harvard. Et moi, mon rêve, c'est qu'il y ait des centaines et des centaines de petites filles, et j'espère le voir de mon vivant, tchadiennes, qui vont à Harvard.
Mais
et là, pour moi, moi, ça serait la mission,
non.
Enfin, ma vie, elle serait réalisée.
Quand je te regarde, quand je t'entends, je pense que tu nous parles tous à l'essence même de nos tripes. C'est pour ça que je pense que tu es magnétique. Je pense que Vogue est arrivée à toi parce que ce que tu fais, c'est vrai, te dépasse. Mais c'est surtout parce que tu es une grande et belle personne qui amène ce changement-là. Donc,
Ça me touche énormément. Mais c'est ça, en fait. C'est, voilà. Mais donc, moi, quand tu me dis c'est quoi ton objectif, évidemment, c'est d'abord et avant tout mon business. Donc, j'ai un business plan, je regarde mon PNL, je regarde mes chiffres tous les jours. Mais ça va au-delà parce que quand j'étais justement à Harvard, j'avais fait un cours qui était en cours de social entrepreneurship. Et ce cours m'avait beaucoup ouvert les yeux parce que, en fait, ce cours disait, avec ma prof avec qui je suis toujours en contact, qu'en fait, on peut avoir un business qui soit donc sans rentable, tout ce qu'on veut, mais que ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Donc, et c'était un peu ce que j'avais envie de faire, et c'était avec elle justement que j'avais écrit ce business plan à l'époque. De se dire, à l'époque, je ne savais pas ce que ça allait être. Je savais que ça allait être autour de la beauté, mais je ne savais pas quel allait être l'impact. Et j'avais mis beaucoup, beaucoup de temps à identifier African Parks, justement. J'avais passé du temps sur le terrain avec eux. J'étais allée voir les parcs nationaux. Je les avais interviewés. J'avais parlé aux femmes autour des parcs. Et ils sont une équipe extraordinaire. Et je voulais aussi saluer l'équipe donc, au niveau de l'Office national de l'ONPTA, donc M. Rosier Abakar, qui est le directeur, qui m'avait aussi beaucoup aidé à identifier où est-ce que je pourrais vraiment avoir un impact et qui sont un peu aujourd'hui sur le terrain. Donc, voilà. Donc, et aussi, tu disais que c'était moi, mais en fait, c'est aussi toutes les clientes, chaque personne qui achète en fait, un produit contribue. C'est pour ça que je dis toujours, en fait, moi, sans mes clientes, je ne suis rien. En fait, il n'y a pas de business, il n'y a pas d'impact.
Oui.
Donc, ce n'est pas que moi, c'est aussi chaque personne qui contribue, et même pour ceux qui n'achètent pas forcément, c'est toutes les personnes qui partagent, qui en parlent, qui soutiennent. Donc voilà, donc merci à elle, merci à toutes ces belles personnes.
Mais en tout cas, merci à toi. J'en profite pour te demander, d'après toi, et là c'est un conseil pour les personnes qui nous écoutent, qui sont dans leur aventure, parfois un peu perdues ou qui ont du mal à démarrer. C'est quoi pour toi les clés de réussite aujourd'hui pour un entrepreneur? Qu'est-ce qui est fondamental à mettre en place ou quelle attitude faut-il avoir pour avancer vers une certaine forme de réussite, quelle qu'elle soit en fait?
Oui, moi j'ai un peu de mal avec ce mot réussite parce que je pense que réussir c'est tellement personnel.
Oui.
C'est
oui.
Tellement parce que par exemple pour certaines personnes, réussir ça serait de construire un business qui fait tel chiffre. Pour d'autres, c'est l'impact. Donc déjà, définir c'est quoi la réussite pour soi, pas forcément pour la société, et la définir. Et puis, parce que les gens vous diront ce qu'ils veulent, mais à la fin de la journée, c'est vous qui vivez avec votre business. Et surtout qu'en entrepreneur, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc de définir c'est quoi la réussite pour soi, qu'est-ce qui vous rend heureux. Et moi, je dirais en fait, c'est de partir, de faire les choses en fait. De ne pas attendre que ce soit parfait ou que ce soit ceci, que cela, de le faire en général. Parfois, on attend trop, on réfléchit beaucoup trop. Au pire, si ça ne marche pas, de réitérer. C'est ça aussi l'avantage que moi je vois donc dans mon entreprise, d'être aussi petit, on est plus flexible, on arrive à tester des choses, on arrive à faire des choses qu'on ne peut pas forcément arriver à faire en tant que grand groupe, parce qu'on n'a pas la même flexibilité. Donc c'est un des avantages qu'on a. Donc voilà, donc, moi ça serait ça, et puis aussi de le faire. Et l'autre chose aussi très importante, c'est de bien s'entourer. C'est-à-dire, il est très important d'avoir des mentors. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des mentors incroyables qui montrent la voie. Donc, évidemment, tu vas faire des erreurs si tu es entrepreneur, mais si tu peux en éviter certaines parce qu'il y a quelqu'un qui te le dit, et surtout quand, comme moi, tu es solo founder, c'est hyper important d'avoir des personnes en qui tu as confiance, que tu peux aller voir et qui vont te dire. Qui vont te dire la réalité en fait de ce qu'ils pensent, le fond de leur pensée, même si tu décides à la fin ce que toi tu dois faire. C'est très important d'avoir des gens comme ça.
C'est
Ou
vrai.
même d'autres entrepreneurs qui sont à peu près au même niveau que toi, d'échanger, de parler, les bons plans, et en général quelqu'un qui comprenne. Parce que ça peut être très fatigant pour le conjoint ou pour la famille. Quand on est entrepreneur, en fait, on est tellement dans son truc. Et donc voilà.
C'est vrai, oui. Et tu sais, il y a aussi ce mythe du solopreneur qui n'y arrive pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les investisseurs ne regardent que les équipes et les teams. Et donc, toi, pour toi, c'est le plus important, c'est de justement s'entourer d'un board ou d'un mentor qui va pouvoir justement contrebalancer le fait que tu es seul ou.
Oui, c'est ça, c'est de contrebalancer parce qu'à un moment donné, il y a aussi cette fatigue de la décision. Et en plus, quand on est une start-up, les décisions qu'on prenne ont un impact énorme sur l'entreprise. Ce n'est pas comme quand on est dans un grand groupe et ce n'est pas ça qui va faire chuter le groupe. Enfin, dans une entreprise plus petite, on a ce risque. Et donc, en fait, d'avoir ces personnes plus ou moins informelles, c'est très important, surtout quand on est seul. Et même si on n'est pas seul, donc c'est important. Donc moi, il y a des jours où j'ai mon conjoint qui est co-founder avec moi, mais qui a un job à temps plein, donc qui me passionne, donc voilà, qui m'aide. Mais à refaire les choses, je pense que je verrais si je ne peux pas trouver un co-founder avec qui on pouvait le faire à temps plein.
Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. Est-ce que tu pourrais nous dire finalement, quand on voit le chantier titanesque que tu as attaqué, quand on voit le temps que ça a mis et les résultats aujourd'hui que tu obtiens qui ne sont que mérités, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce que cette aventure t'a appris de toi sur toi-même qui t'a permis finalement de passer au travers et d'être encore là et très optimiste en plus?
Moi, en fait, je suis quelqu'un de. J'étais, je me réveille pour le passé maintenant, de particulièrement impatient. Et je pense que cette aventure m'a appris la patience. Et un jour, je me rappelle, j'étais un peu énervée. J'avais appelé mon mentor préféré, celui que j'appelle quand j'ai vraiment besoin de parler. Et je lui disais, écoute, ça me saoule, ça prend trop de temps, c'est ceci, c'est cela. Et il m'a écouté, il me déversait, j'ai insulté tout le monde, il m'a écouté. Il est très patient, il m'a 10 minutes, il m'a écouté. Et un quart d'heure, je ne sais plus. Et après, il m'a dit, il me regardait avec un sourire, et après, il me dit, ça va, tu sais que le CHB existe depuis 7000 ans. Et ça m'a arrêté, en fait. Et aussi, le parfum signature de la marque a plus de 200 ans. En fait, c'est un vieux flacon que j'ai hérité. Il me dit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et en fait, j'ai perdu le cours de la question, mais c'est voilà, c'était ça. Donc ça m'a vraiment appris la patience. Et de me dire, ça a pris 7000 ans. Ça a pris 200 ans. Et si on regarde, je cherche encore mes mots en français, vous allez m'excuser, donc, the big scheme
Non,
of things, si
oui.
on dit en anglais, 4 ans, ce n'est rien du tout, en fait, de se dire. Que moi j'avais l'impression pendant 4 ans, et en plus je laissais les ingénieurs travailler, je suis allée planter la plante, ce qui est très bien aujourd'hui, donc j'ai une forêt de chevet, mais ce genre de choses, je vais dire, ça m'a appris la patience, ça m'a aussi appris à ça m'a appris la patience, je pense beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec cette aventure, la patience, et aussi ça m'a aussi appris à à ne pas que penser à soi, de voir l'impact en fait qu'on peut avoir. De même mon entreprise est encore petite, c'est une start-up, mais de se dire que même avec une start-up, on peut avoir de l'impact, on peut voilà. Ça c'est voilà.
C'est très très inspirant. Alors on est sur la fin, la conclusion de cet épisode. Pour toi, Salwa, au regard de tout ce que tu as vécu jusque-là, l'essentiel, c'est de
avoir aucun regret. Donc, de vraiment faire ce qui vient du cœur, ce qu'on a envie de faire. Parce que moi, le nombre de fois que j'ai entendu, personne ne va t'acheter une crème capillaire à 55 euros, qui est le prix du grand format. Donc, venez voir mes chiffres et on en parle. Ou encore, la beauté africaine n'est pas aspirationnelle. Aujourd'hui, moi, j'ai client dans une cinquantaine de pays qui sont des femmes de toute origine. La beauté africaine peut tout à fait être aspirationnelle. Elle est aspirationnelle. Le Tchad, l'Afrique, est après tout le berceau de l'humanité. Et donc voilà, c'est d'être soi, de ne pas avoir de regrets. Parce que si je n'avais pas fait ces choses-là, je me serais demandé toute ma vie, et si? Et si? Et si? Et si? Et voilà. Donc, de ne pas avoir de regrets. Donc, je dirais que c'est ça l'essentiel.
Oh là là, je suis bouleversée. Merci pour cet incroyable épisode. Tu es une femme comme on en rencontre peu. Je me sens vraiment honorée de t'avoir à mon micro, même si on est à distance et que pour l'instant tu es en Allemagne. Mais merci pour ce partage riche que tu viens de nous offrir. Et surtout, j'aimerais que les auditeurs sachent à quel point tu es humble, parce que je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a fait de brillantes études, qui a un réseau incroyable, et quand on te voit, on te parle, tu ne mets pas ça en avant, mais tu mets vraiment ton cœur et ton humanité en avant. Et sur ton CV, il n'y a que des beaux noms, mais je pense que ce qu'il y a de plus beau, c'est ton nom à toi en fait. Et j'espère que la marque que tu as construite et le nom que tu portes résonnera et rayonnera dans le monde entier pour des millénaires à venir. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci encore. Voilà. Merci. Merci. Alors, le petit mot de la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait tellement à grandir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, laissez-moi un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de monter dans les classements et d'atteindre plus de monde. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre. Poursuivons notre route ensemble. À la semaine prochaine. À bientôt.